Le journal, bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Êtes-vous prêt pour la troisième dose de vaccin contre le Covid-19? La Haute Autorité de Santé préconise un rappel pour tous les adultes de plus de 40 ans. Le gouvernement devrait suivre cet avis pour relancer l'efficacité du sérum, alors que l'épidémie repart à la hausse. Reportage dans une pharmacie dès le début de ce journal. Et tandis qu'en Autriche, on reconfine à partir de lundi, qu'en Bavière, les marchés de Noël sont annulés, la France est pour le moment moins durement frappé par cette cinquième vague, même si 4000 classes sont fermées, nous dira Sonia Princet. C'est beaucoup moins qu'au plus fort de l'épidémie au printemps dernier. Un président pas encore candidat en campagne. Emmanuel Macron est en déplacement dans les Hauts-de-France. Rencontre glaciale avec son rival putatif, le président de la région, Xavier Bertrand. Où est Peng Shuai, la championne de tennis chinoise, n'est pas réapparue en public depuis plus de 15 jours. Après avoir dénoncé un viol commis par un haut dignitaire chinois, les Nations Unies lancent c'est un appel à la Chine. À Bruxelles, on manifestait aujourd'hui contre la nouvelle PAC, la politique agricole commune, qui doit être votée la semaine prochaine. Pas assez verte, disent les écologistes. Et le choix culturel du vendredi, c'est une BD, Le Dernier Espadon. C'est le titre des 28e aventures de Blake et Mortimer. Et au téléphone sonne ce soir, Claire.
Eh bien, un coup de projecteur sur la France d'aujourd'hui. À l'occasion de la sortie du livre de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux, on va parler de la France de 2021. Logement, transport, mode de vie. Dites-nous si vous aussi, vous trouvez que la France a changé ces dernières années. On parlera de tout, on parlera des loisirs, de ce qu'on mange également. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
France Inter. Vers une troisième dose de rappel pour les plus de 40 ans face à la hausse de l'épidémie de Covid-19 en France. C'est la recommandation que vient de donner la Haute Autorité de Santé. Jusqu'à présent, l'accès à la dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 est ouvert aux plus de 65 ans et aux personnes fragiles. Pour les plus de 50 ans, ce sera possible à partir du 1er décembre. Alors en attendant les modalités pratiques de cet élargissement probable de la vaccination aux plus de 40 ans, les pharmaciens, médecins, centres de vaccination se prépare à devoir gérer un afflux de candidats au rappel. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
Vous êtes allée dans une pharmacie parisienne.
Et dans cette officine, c'est le pharmacien Alexandre de Courval qui vaccine 3 jours par semaine.
Et là, ma petite marquette à vaccin. Hop.
Voilà, et déjà, il ne chôme pas. Hein, pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil à la liste des rendez-vous.
Ouais, on n'a plus de place. On est sur maintenant sur du mi-décembre. Et les carnets de rendez-vous, si j'ose dire, ça se remplit très vite.
Alors, s'il faut rajouter des créneaux pour les 40-64 ans, ça s'annonce déjà très compliqué.
Moi, je suis au taquet. Je suis une pharmacie moyenne, on va dire, en termes de personnel, etc. Je peux pas faire plus. Il y a la vaccination de la grippe, il y a le Covid, il y a une demande accrue avec la reprise d'épidémie sur les tests. Donc, on n'arrête pas.
Mais ce qui l'inquiète donc, c'est de voir bientôt débarquer dans sa pharmacie des patients pressés, très pressés d'obtenir leur troisième dose avant les fêtes de fin d'année.
Mais ce qui me fait peur, c'est si jamais, pour toutes les tranches d'âge, le pass sanitaire finit au 15 décembre, c'est-à-dire qu'il va y avoir un afflux de personnes. Je pense honnêtement qu'il nous faudra du temps pour vacciner tout le monde. Donc ça serait bien que toutes les tranches d'âge soient échelonnées, j'imagine en janvier, parce que faut amortir le choc.
D'autant que ce mois-ci à Paris, 15 des 28 centres de vaccination Covid doivent fermer leurs portes.
Et précision du ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter qui dit que cet élargissement sera étudié prochainement, les modalités donc à venir. Alors pourquoi cette troisième dose est-elle nécessaire? Parce qu'au bout de 6 mois, le vaccin perd de son efficacité. Et avant cette annonce de la Haute Autorité de Santé, le chef de l'État avait laissé fuiter l'information sur un possible élargissement. Je ne serais pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes qui ont été vaccinés. C'est le sens de l'histoire, a dit Emmanuel Macron cet après-midi en marge d'un déplacement dans le nord de la France. Ailleurs en Europe, où l'épidémie flambe beaucoup plus que chez nous, l'Autriche choisit la méthode forte avec un confinement général de toute la population à partir de lundi. Les Autrichiens sont vaccinés à 65% contre 76% des Français. En Allemagne, il n'y aura pas de marché de Noël en Bavière pour la deuxième année consécutive. La Bavière est l'une des régions les plus touchées par cette cinquième vague. Et conséquences très concrètes donc de cette nouvelle vague, 4000 classes sont fermées en France. C'est 3 fois plus qu'il y a un an et c'est le plus haut niveau depuis la rentrée des classes de septembre. Sonia Princet.
Les cas de Covid avaient en effet augmenté avec la rentrée scolaire, mais à partir de la mi-septembre, le nombre de classes fermées avait baissé, ce qui avait permis début octobre d'alléger le protocole sanitaire et de retirer le masque dans les écoles dans certains départements. Et puis fin octobre, l'épidémie est repartie à la hausse. Juste avant les vacances de la Toussaint, on avait 1200 classes fermées. 4000 aujourd'hui, cela représente 0,8% de l'ensemble des classes en France. Il faut donc relativiser pour le moment. C'est bien moins qu'au printemps dernier, avant la fermeture des établissements scolaires en avril, on était à 11 000 classes fermées. C'est surtout la région parisienne et les grandes métropoles qui sont les plus touchées. 28 écoles sont entièrement fermées, mais aucun collège ni aucun lycée, tout simplement parce que la règle est différente. À l'école, dès le premier cas de Covid, on ferme la classe. Au collège ou au lycée, seuls les élèves cas contact non vaccinés doivent rester chez eux. Depuis lundi dernier, le masque est redevenu obligatoire en classe dans tous les départements. On verra dans les prochaines semaines si cette mesure est suffisante ou s'il faut passer à un niveau de protocole plus élevé. On est pour l'instant au niveau 2 sur une échelle de 4.
C'est un Emmanuel Macron quasiment en campagne qui arpente la région des Hauts-de-France.
Oui, avant un week-end dans sa maison du Touquet et un tour lundi dans sa ville natale d'Amiens, le président de la République est donc aujourd'hui dans le Nord et dans l'Aisne. Un déplacement pour annoncer de nouvelles aides au territoire de la Sambre Avesnois-Thiérache pour la santé, l'économie, le tourisme. Il a notamment annoncé l'ouverture d'un internat à l'hôpital de Maubeuge. Et cet après-midi à Guise, dans l'Aisne, le président, pas encore candidat à sa réélection, a été accueilli fraîchement par Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Il brigue l'investiture de la droite à la présidentielle. Un duel mano à mano que nous raconte Maxence Lambrecq.
Le duel commence dès la poignée de main sur le parvis. Xavier Bertrand met fin aux amabilités.
Deux secondes sur un dossier.
Bien sûr.
Ascoval.
Ascoval, Assyrie voisine, sauvée hier soir par Bercy, mais ça ne tiendra pas dans le temps, estime le candidat.
Concurrence déloyale des Allemands, on s'en sortira pas.
On se bat sur ce sujet, comme vous le savez, qui n'est pas de transfert de charges.
Je veux sauver cette usine, définitivement.
Je me suis toujours battu pour cette usine comme les autres.
À qui sera le meilleur avocat, face à face, masqué, sans lâcher la main ni le regard.
C'est le président, j'ai compris.
Non mais elle a donc.
Je vous dis que c'est pas ça la solution.
Ce que j'écoute, alors vous savez peut-être mieux que tous les autres, c'est possible.
Non, mais je cherche
moi,
pas.
Moi,
j'écoute le terrain. Je veux qu'on ait des garanties.
J'essaie juste moi aussi d'avoir des garanties.
Voilà. Le problème n'est pas de savoir.
Et qu'il n'y ait pas de concurrence.
Qui a donc raison de nous deux.
Non. Mais d'ailleurs, moi, je n'ai pas d'avis.
C'est qu'on ait mon avis, de la c'est l'efficacité. Alors prenez donc, en compte le donc, point de vue dont je suis le porte-parole.
Je l'ai toujours pris en compte, comme vous le savez.
Il a le dernier mot. Et dans la foulée, message de Bercy à la presse. Sur ce dossier, Xavier Bertrand n'est de toute évidence pas bien informé. Lui nous glisse, il se trompe. Vous le verrez.
Quand vous serez parti, monsieur le président, madame, monsieur les ministres.
La salle se fige, mais ils parlent de leur départ ce soir.
On travaille en confiance avec les préfets. C'est bien le président de la région des Hauts-de-France qui vous parle.
Et qui se veut maintenant le porte-parole des pêcheurs.
Vous êtes plusieurs jours dans la région, ils iront là où vous voudrez. Ils veulent vous voir parce qu'ils veulent qu'on se batte pour eux jusqu'au bout.
Tous les pêcheurs de toutes les régions concernées seront reçus. Sans nous laisser diviser par qui que ce soit, parce qu'on laissera tomber personne. Pas un pêcheur et pas un territoire.
Ces bras de fer, ils les aiment et s'en servent. Prochain round, lundi à Amiens.
Merci, c'était un reportage de Maxence Lambrecq. C'est un sigle connu depuis les années 50, la PAC, la politique agricole commune. Elle représente un tiers du budget de la Commission européenne. Et la France en est le principal bénéficiaire. Mardi prochain, à Bruxelles, les députés voteront la nouvelle PAC pour une entrée en vigueur prévue en 2023. Mais cette nouvelle PAC n'est pas assez verte pour les écologistes. Et ce matin, devant le Parlement européen, plusieurs dizaines d'associations ont interpellé les eurodéputés. Reportage à Bruxelles, dans
actuellement, l'Europe a rendez-vous avec l'histoire. Et aujourd'hui, on est là devant le Parlement européen pour ne pas rester silencieux.
On a été floués, estime nombre de manifestants. Cette nouvelle PAC, dont le socle date d'avant l'arrivée de l'équipe von der Leyen, n'a pas été réécrite en reprenant les engagements du pacte vert, dénonce Charles, venu interpeller les eurodéputés.
Nous pointons leur manque de cohérence. On ne pourra jamais atteindre les objectifs de Green Deal européen en continuant une agriculture où 80% des aides vont à moins de 20% des agriculteurs qui pratiquent une agriculture, pour la grande majorité d'entre eux, intensive, qui ne permet pas aux jeunes de s'installer, qui ne permet pas de faire réellement la transition agricole dont le monde a besoin aujourd'hui.
Pour Ariel, membre de BirdLife, c'est la trop grande autonomie laissée aux États et le maintien des aides à l'hectare qui pose problème.
En gros, les États membres ont la liberté complète de dépenser l'argent un peu comme ils veulent et on sait déjà que la plupart de l'argent ira aux agriculteurs les plus gros, les plus riches, les plus pollueur.
Derrière son masque, Lucie, la vingtaine, n'arrive pas à cacher son désarroi. Militante de Youth for Climate, elle a été de toutes les marches belges en faveur du climat.
Là, je reviens aussi de la COP26 à Glasgow et c'est un peu compliqué parfois pour le moral de garder l'optimisme et de se dire qu'on peut encore faire changer les choses. Mais on a quand même vu en presque 3 ans qu'il y a eu du changement, donc on garde espoir.
Business. Agroécologie.
Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Où est Peng Shuai ? Le slogan est devenu viral sur les réseaux sociaux. Peng Shuai, la championne de tennis chinoise, ex numéro 1 mondial du double, star dans son pays, elle n'a plus donné signe de vie depuis le début du mois de novembre. Et des Nations Unies aux instances mondiales du tennis, les voix s'élèvent pour demander à la Chine de faire la lumière sur cette disparition, survenue après que la joueuse, âgée de 35 ans, a accusé un haut dignitaire chinois de l'avoir violée. Valérie Krova.
La disparition de Peng Shuai prend des allures d'affaires d'État. Ce matin, l'une des porte-paroles du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a évoqué depuis Genève le sort de la joueuse de tennis, ancienne numéro 1 mondiale en double. Il serait important d'avoir des preuves de l'endroit où elle se trouve et de savoir si elle va bien. Nous demandons instamment qu'une enquête soit menée en toute transparence sur ces allégations d'agression sexuelle. Une enquête que réclame également la WTA, l'instance qui gère le circuit professionnel de tennis féminin. Son directeur Steve Simon est monté au créneau. Il menace de retirer la Chine des tournois si Pékin ne fait pas la lumière sur la disparition de Peng Shuai. La capture d'écran d'un message rédigé en anglais sur Twitter qui lui est attribué et qui a été diffusé avant-hier sur une chaîne de télévision chinoise a renforcé les doutes. La jeune femme reviendrait sur ses accusations de viol dans ce message qui n'a pas été authentifié. Il pourrait s'agir d'aveux forcés. La France se dit elle aussi préoccupée par l'absence d'informations sur la situation de la joueuse de tennis âgée de 35 ans.
Valérie Krova. Retour en France à la cour d'assises du Nord, à Douai. C'est la peine maximale pour David Rameau, le meurtrier de la petite Angélique, 12 ans, à Vambréchy, près de Lille, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. En 2018, il avait attiré la petite fille chez lui avant de la violer, de l'étrangler. Déjà condamné pour des agressions sexuelles et le viol d'une enfant il y a une vingtaine d'années, cet homme, père de famille, chauffeur de bus, n'avait commis aucun crime depuis. Face au risque de récidive, la cour d'assises du Nord a donc prononcé une peine incompressible, un verdict accueilli avec soulagement par les proches de la victime, a doué le récit de Cécile Bideau.
Au moment du verdict, tout le public porte un t-shirt violet avec la photo d'Angélique. Les proches font bloc avec cette famille meurtrie qui est restée digne et soudée tout au long du procès face aux sanglots sans larmes de David Rameau. Lui ne bouge pas, n'exprime ni émotion ni surprise quand la présidente lui explique qu'il effectuera d'abord une peine incompressible de 25 ans avant de pouvoir demander tout aménagement qui sera conditionné à la décision d'une commission disciplinaire. Un double verrou en quelque sorte qui rassure la famille d'Angélique, Anaïs, sa sœur.
C'est une lourde peine et nous on veut qu'il ressorte plus jamais, donc ça nous convient. Ça la ramènera jamais, donc on essaie de continuer à vivre malgré tout, mais c'est pas facile tous les jours.
L'avocate générale avait demandé que la peine incompressible soit de 30 ans, c'est 5 de moins, comme si les jurés avaient entendu l'appel de l'avocat de David Rameau, laisser une toute petite lumière au bout du tunnel. Pour Éric Demey, son client, qui récidive au bout de 20 ans, reste un mystère.
Ce qui est exceptionnel, c'est pas tant qu'il se soit dissimulé, parce que tous les pervers se dissimulent, c'est qu'il n'est jamais passé à l'action pendant tout ce temps. Mais je pense qu'effectivement, c'était inéluctable qu'un jour ou l'autre, ça arrive, et c'est arrivé là. Au moins maintenant, il va être suivi.
Quelques minutes après le verdict, David Rameau a annoncé à son avocat qu'il ne comptait pas faire appel.
Cécile Bideau de France Bleu Nord. C'est l'épilogue d'une mystérieuse réapparition. En 2020, des milliers de pages manuscrites de Louis-Ferdinand Céline avaient été découvertes. Près de 6000 feuillets qui avaient disparu en 1944. Mais deux ayants droit de l'écrivain avaient porté plainte pour recel de vol contre l'homme qui avait conservé ces manuscrits pendant des années, un ancien journaliste de Libération qui affirmait avoir gardé les manuscrits pour tenir parole envers le mystérieux donateur de ce trésor. Le parquet de Paris, on vient de l'apprendre, a classé l'enquête sans suite. Écoutez la réaction de maître Jérémy Assous, l'avocat des ayants droit de Céline, interrogé par Ilana Mourioussef.
L'objectif principal est atteint. On a pu récupérer les documents qui étaient les nôtres, à savoir tous les manuscrits, puisque, je rappelle, Jean-Pierre Thibaudat refusait systématiquement de les restituer. Cette action pénale a eu pour effet de permettre à ce que ces biens soient restitués à leur légitime propriétaire et surtout puissent être publiés, ce qui va être fait courant 2022. Après, sur le choix qui a été fait et qui n'appartient qu'au ministère public, si vous me demandez de le commenter, je note que c'est une excellente nouvelle pour tous les receleurs de France ou de Navarre, puisque le parquet de Paris leur indique qu'ils ne seront jamais poursuivis, ils bénéficieront d'une immunité pénale si jamais ils invoquent le statut de journaliste, peu importe qu'il l'ait ou pas.
Maître Jérémy Assous. Il avait signé quelques-unes des images les plus iconiques du rock des années 70. Freddie Mercury, les bras croisés sur l'album Queen 2, Lou Reed en noir et blanc sur la pochette de Transformer, photographe officiel de David Bowie pendant la période Ziggy Stardust, le britannique Mick Rock, ce n'est pas un pseudonyme, est mort à l'âge de 72 ans. On l'avait surnommé l'homme qui a photographié les années 70. Correspondance en musique à Londres de Richard Place.
En 1974, quand sort le deuxième album de Queen, tout le monde remarque sa pochette très graphique. Les quatre membres du groupe posent dans un clair-obscur sur fond noir. Ils sont beaux et inquiétants à la fois. C'est l'œuvre de Mick Rock, qui disait s'être inspiré de Marlène Dietrich dans le film Shanghai Express. Il ne photographiait pas seulement, il mettait en scène. Sa mort a d'ailleurs été officiellement annoncée aujourd'hui par ses proches en parlant de la disparition de leur rebelle psychédélique bien-aimé. Mick Rock réalise aussi quatre clips pour son ami David Bowie, dont celui de Life on Mars, où le chanteur est filmé seul, en costume turquoise, cheveux rouges, visage poudré et les yeux entourés de maquillage bleu. Ses amis parlent aujourd'hui de lui comme d'un poète photographique, lui qui a croisé la route des stars des années 70, mais qui a poursuivi son chemin ensuite en accompagnant Lady Gaga, Snoop Dogg ou encore Miley Cyrus.
C'est dur de couper ça, Corinne, n'est-ce pas ?
C'est terrible, c'est pour ça que je vous laisse le faire, Claire.
Ouais, c'est très sympa. Allez, Banjo, c'est le choix culturel du vendredi.
Oui, avec le retour des deux plus célèbres espions de sa gracieuse majesté, Blake et Mortimer. Un nouvel album de leurs aventures dessinées sort aujourd'hui, avec au scénario le Belge Jean Van Ham, créateur entre autres de 13 et Torgal. Le dernier espadon s'inspire directement de la toute première histoire de Blake et Mortimer, imaginée en 1946 par Edgar P. Jacobs. Au programme, Alexis de Meyer, des terroristes irlandais, des nazis et un projet d'attentat contre la famille royale britannique.
75 ans après leur première apparition dans le journal Tintin, les héroïques Blake et Mortimer continuent de déjouer des machinations d'ampleur internationale. Cette fois-ci, ce sont les paramilitaires irlandais de l'IRA qui font alliance avec des hauts dignitaires du Troisième Reich. Il faut dire que le scénariste Jean Van Ham est un passionné d'histoire.
La plupart des gens ne savent pas que l'Irlande était neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça grouillait d'espions. Hein. Donc, on peut comprendre qu'un colonel nazi revanchard ait envie de faire sauter Buckingham. Pour le faire, bah, il vole un espadon.
L'auteur belge de 82 ans s'attaque en effet à un gros poisson. L'espadon, cet avion amphibie armé d'une bombe atomique, est un élément culte de la saga créée par Jacobs. Mais comme pour mieux tuer le père, le malicieux Jean Van Ham se permet ici de glisser quelques traits d'humour.
C'est une forme de crime de lèse-majesté, mais c'est un humour qui colle avec le British sense of humor. Ça n'est pas de la grosse farce. En plus, il y a un rôle féminin que j'aime beaucoup, la secrétaire de Blake au MI5. Elle est rigolote et j'aurais dû la créer plus tôt.
Autre bonne idée, le mea culpa du professeur Mortimer. En pleine introspection, le scientifique à l'épais collier de barbe affirme son antimilitarisme, regrettant amèrement l'invention d'une machine à tuer.
Et le dernier espadon, ça sort aujourd'hui. En 75 ans, Blake et Mortimer ont prononcé 96 fois « By Jove », qu'on peut traduire, Claire, je dis ça pour votre pour votre instruction,
mais je
bon
prends.
Sang de bonsoir, sapristi, ou tout ce que vous voulez d'autre.
Merci, c'est parfait. Là, on va dire surtout dire « Chouette, c'est le week-end ». Merci, Corinne, merci. On prend des nouvelles du temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Peu de changement demain.
Oui, on aura du soleil dès le matin sur le sud-est et en montagne, avec des nuages tout de même pour le Roussillon. Ailleurs, nuages bas et brouillards encore nombreux. Alors dans le sud jusqu'à la Loire, ça s'arrangera bien. L'après-midi, le soleil reviendra. En revanche, ça restera très encombré de la Bretagne vers le bassin parisien, le nord de la Seine, le Grand Est et le Val de Saône. Le matin, il fera moins 1 à 5 degrés du sud-ouest aux régions de l'Est, 3 à 9 ailleurs. Et puis l'après-midi, pas plus de 5 degrés sous la grisaille tenace à Dijon. 8 degrés à Lyon, 9 à Strasbourg, 11 à Caen et à Nantes, 12 degrés à Lille, à Paris. Il fera 13 degrés à Grenoble, 14 à Limoges ou à Agen, 16 à Bayonne et 20 degrés à Toulon.
Et du changement dimanche ?
Beaucoup de nuages partout et surtout le retour de la pluie sur le nord-ouest, sur le nord. Quelques pluies aussi sur le sud-ouest, mais également entre la vallée du Rhône, la région PACA et la Corse, et des températures qui vont commencer à baisser. On aura une moyenne de 9 degrés au nord et de 13 au sud.